Bonjour à tous et bienvenue sur Chalalove, votre dose d'amour bimensuelle. Tous les 15 jours, un couple qui nous ressemble accepte de nous dévoiler les petits secrets qui rendent leur relation aussi unique. On parle tout autant de ce qui marche pour eux, d'erreurs ou d'enseignements, ainsi que de leurs plus beaux souvenirs ensemble. L'objectif, c'est qu'en une trentaine de minutes, vous soyez inspirés bien sûr, mais aussi que vous puissiez au travers de ces expériences partagées vraiment apprendre de nos invités toutes les astuces qui font pour eux le secret du bonheur à deux. Vous êtes de plus en plus nombreux à suivre Chalalove, que ce soit via le podcast ou sur Instagram. Alors on voulait simplement prendre un peu de temps pour vous faire un grand, grand merci pour votre soutien et pour tout cet amour que vous nous aidez à diffuser un peu partout autour de nous. Si vous voulez postuler, candidater pour être sur Chalalove, rien de plus simple, et bien allez tout simplement sur notre compte Instagram, donc à gemio-ge-2-m-y-o, et envoyez-nous un petit message en message direct. On vous répondra très rapidement. Mais passons maintenant à nos invités du jour. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Laure et Joël. Laure et Joël se sont rencontrés durant leurs études. Coup de foudre, ils ne se sont plus jamais quittés. Pourtant, leur vie amoureuse, qui aurait tout l'air d'un conte de fées vu de l'extérieur, n'a en fait pas toujours été un long fleuve tranquille. Ce couple fusionnel, passionnel même selon les mots de Laure, nous partage, avec une grande humilité, une grande simplicité, les différences et obstacles qu'ils ont dû surmonter pour faire éclore leur amour dans la durée. Des différences de tempérament d'abord, vifs et très actifs pour Laure, plus posés pour Joël, amenant parfois à certaines incompréhensions. Des différences culturelles aussi, puisque Joël est métisse, déjà dit un français, et n'avait pas forcément la même vision de la famille que Laure. Des différences de temporalité aussi, puisque le déclencheur de leur crise de couple vient du décalage entre Joël, qui commence un travail très prenant à Lyon, et Laure, qui, elle, sent la solitude lui peser pendant sa grossesse. Même si l'amour est immense, il faut parfois accepter de se faire aider, et Joël et Laure ont eu la sagesse de se faire accompagner via une thérapie de couple pour mettre des mots sur ces obstacles. Une thérapie salutaire qui les a rendus plus amoureux que jamais et leur a surtout donné des outils qu'ils nous partagent durant l'épisode pour s'assurer de la vie de couple la plus épanouie possible. Je suis Pauline Léniaud et ce podcast vous est proposé par la maison de joaillerie Gemio. Bonjour Joël et bonjour Laure.
Bonjour.
Bonjour.
Bienvenue sur Chalalove, on est ravis de vous accueillir. Vous savez que c'est un podcast sur l'amour, donc on va parler de vous, de votre relation. Mais avant de commencer, j'ai maintenant pour tradition de demander à mes invités de se présenter. Joël, je te sens ravi de commencer. Vas-y, dis-moi
oui,
tout.
Oui, bah, je vais introduire en premier. Donc, je m'appelle Joël, je suis ancien parisien d'adoption, du coup, parce qu'on a vécu... 4 ans à Paris et du coup maintenant on habite à Lyon depuis 3 ans avec un petit garçon qui a 1 an et demi qui s'appelle Léon.
Génial.
Voilà, et j'ai 30 ans.
Ouais.
Et je suis passionné par le foot, par les films, le cinéma.
Cool.
Et voilà, on se plaît beaucoup à Lyon.
Eh ben vous avez bien raison, c'est une très belle ville. Et toi alors, vas-y, présente-toi.
Eh bien, c'est à peu près la même chose. Je suis Laure, j'ai 30 ans. J'habite Lyon aussi. J'ai adoré Paris.
D'accord.
Mais après, il y a des raisons qui ont fait que je l'ai quitté. Donc, on est très contente de revenir à Paris aujourd'hui.
De temps en temps.
Et je travaille dans l'informatique.
D'accord.
Ça me plaît pas mal parce que j'ai plein de challenges. Et en dehors, j'aime bien faire de la couture, des loisirs créatifs.
Très bien, merci à tous les deux. Si on commence par le début, je demande quasiment toujours à mes invités comment ils se sont rencontrés. Je vais commencer par te poser la question à toi, Laure, parce que je crois que la rencontre s'est faite en deux temps.
Ouais.
Et que c'est toi qui as un peu flashé sur Joël, on peut dire. Ouais. J'aimerais bien que tu me racontes. Alors comment ça s'est fait? Comment vous êtes vus la première fois?
Je l'avais repéré parmi 400 étudiants.
Ah oui, quand même.
Ouais. Ça, c'est ce qu'elle dit après,
Joël. En fait, moi, j'avais enchaîné des relations qui, à l'époque, étaient longues. Maintenant, elles sont dérisoires par rapport aux 8 ans qu'on a de vie commune. Et du coup, c'était une nouvelle année. C'était la dernière année d'école. Je m'étais dit, bon, je me prends pas la tête. Et en fait, j'ai des amis qui m'ont dit, oh, tu devrais voir, y a un garçon qui te plairait bien. Et effectivement,
ils ne se sont pas trompés.
Voilà, énormément. Et alors, les gens doutent, mais je suis plutôt timide. Je le cache sous des blagues pas très drôles.
D'accord.
Mais du coup, je n'osais pas l'approcher.
Ah.
Et on a fait un séminaire, en fait, l'école organisait un séminaire à Prague. Et du coup, bah, tous mes amis étaient sur le pied de guerre pour...
Ah oui, donc c'était un peu complètement organisé comme
une grosse mission. Et du coup, tous les prétextes étaient bons pour aller lui parler. À l'époque, je fumais, donc j'avais des amis qui me disaient « Laure, viens voir, tu veux du feu, Joël va t'en donner. »
La seule personne qui a un briquet de 400 personnes, c'était Joël.
Ouais. C'était une école, non.
Et après, du coup, on était là-bas pour une semaine, donc on a fait plusieurs soirées où je tentais de le rencontrer. Alors, je buvais un petit peu pour me désinhiber, et en fait, au moment où j'étais désinhibée, il partait. Donc, j'étais désinhibée pour rien. Et en fait, le dernier soir,
ouais,
je crois,
dernier soir, ouais.
J'ai une amie commune qui nous a présenté. Et du coup, elle m'a laissée parce qu'elle savait que voilà, j'étais intéressée. Et du coup, rapidement, j'ai dit à Joël, je te laisse, je vais boire quelques verres, je reviens. Et j'ai bu très vite. Du coup, j'étais pas bien. Mais c'est comme ça qu'on a commencé à se parler.
Et alors, toi, pendant tout ce temps, Joël, t'avais compris un peu ce petit manège ou t'étais complètement dans ton monde ?
Non, pas du tout. J'étais vraiment complètement dans mon monde. Je l'avais quand même vu parce qu'on était dans le même bus qui allait à ce séminaire-là. Ouais. Et oui, je l'avais trouvé super joli. Mais après, je suis retourné dans mon monde.
Ouais.
Et du coup, c'est vraiment ce soir-là qu'on s'est rencontrés et qu'on a passé du temps ensemble. Après, moi, mon parcours amoureux est un petit peu différent parce que j'avais jamais eu de relation très longue avant. Et donc, oui, comparé aux 8 ans sur lesquels on est maintenant, c'était complètement dérisoire. Ouais.
Et à l'époque, vous cherchiez une relation sérieuse, entre guillemets, ou c'était l'école, vous ne saviez pas trop, quoi.
Pour ma part, en tout cas, moi, je ne me prenais pas vraiment la tête. On était plutôt sur la fin de notre parcours scolaire, universitaire. Et du coup, c'était plutôt on passe du temps avec les personnes qui nous sont chères parce qu'on va tous voguer vers de nouveaux horizons. Ouais. Et moi, j'étais plutôt dans cette optique-là.
Moi, j'ai jamais réussi à avoir des plans d'un soir ou des choses comme ça. Et je tombe assez vite amoureuse. ouais, c'est plutôt des personnalités que des physiques. Enfin, même là, j'étais contente parce que j'avais les deux en un. Mais ouais, non. C'est vrai que cette dernière année, je cherchais pas à me relancer dans une relation parce que j'en sortais, mais c'est clair que j'allais pas juste.
Tu voulais quand même que ça soit sérieux.
Ouais, j'arrive pas.
Et alors, donc cette première soirée que vous passez ensemble, donc toi, t'es à fond, on a compris. comment ça se passe ? Ça se passe bien ? Déception de ton côté ? Toi, Joël, aussi, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que tu dis « Ah, elle est quand même sympa ?»
Non, ça se passe super bien parce qu'on a dû passer la moitié de la soirée ensemble, facile.
Ouais.
De minuit jusqu'à 2-3 heures du matin. Et puis après, le lendemain, je lui avais réservé une place dans le bus.
Oui, donc ça commençait à rouler un peu, quoi.
C'est ça. Petit elle n'est pas venue.
Bisous dès le premier jour.
Il y a eu bisous.
Ouais. Et puis après, le jeu de la séduction a vraiment commencé après ce séminaire.
Bon, il faut dire qu'après le bisou, en soirée, il y a eu un autre bisou, mais pas avec moi.
Ah, oui. Joël, un peu flambeur.
Ouais,
un peu...
c'est ça.
Exactement.
Donc bon... J'ai dû lui faire la danse de l'amour pour le rattraper, mais bon, je savais qu'il fallait que...
Donc le jeu de la séduction a surtout commencé du côté de Laure, en fait, d'après ce que je comprends.
Oui, oui.
Parce que toi, donc, t'étais un peu... Tu t'étais intéressée, mais tu vaquais à tes occupations, quoi.
Ouais, on va dire ça. Mais tout en étant très intéressée.
Je comprends. Très bien. Et donc, ce petit jeu de séduction dure un moment. Est-ce que vous vous rappelez d'un moment où donc, vous êtes ensemble après et vraiment, ça passe un cap parce que vous vous dites... ça devient vraiment sérieux, c'est un moment important, peut-être le premier je t'aime, peut-être que c'est pas le même moment pour les deux. Est-ce que vous pourriez m'en parler, Joël ? T'as l'air de...
En fait, je pense que ça, notre relation est allée très vite, parce qu'au bout de 3 mois, on déménageait à Paris, on s'est installés ensemble dans un 18 mètres carrés pendant un an. Je dirais que ça a commencé tout de suite, en fait, parce que il y avait déjà ce petit truc où on se forçait à pas répondre trop vite au SMS, à pas montrer qu'on était trop intéressé au départ, et donc moi je dirais que ça a commencé vraiment très vite, peut-être 3-4 jours après, en fait.
D'accord. Ah oui, donc hyper rapide, incroyable.
Parce qu'en fait, il avait organisé une soirée chez lui, Et du coup, en fait, il était sorti avec moi sur le balcon, sachant qu'il était quand même très courtisé. Mmh. Et du coup, il est sorti sur le balcon avec moi et il m'a dit « J'aimerais bien officialiser avec toi, je t'amène au resto ». Et incroyable, mais vrai, mais ouais. ça m'a fait chavirer le cœur.
Très bien.
Bon, c'était pas aussi formel que ça.
Oui, c'était plus poétique, mais ouais. C'est...
Et donc ça va très très vite. Moi, je voulais vous demander, vous aviez quand même eu quelques relations avant, enfin surtout toi, j'ai l'impression, ouais. Laure, pourquoi est-ce qu'en fait là c'est allé particulièrement vite? C'est difficile à dire peut-être, mais qu'est-ce que vous avez ressenti, enfin qu'est-ce qui a fait que là cette fois vous aviez envie d'y aller, vous aviez envie d'emménager ensemble, enfin vraiment c'était hyper fluide et hyper naturel?
Alors, il y a surtout le fait qu'on soit à Paris, en fait financièrement on pouvait pas se permettre d'avoir deux logements. Et en plus, on s'était dit, tant pis, c'est un crash test, il y a 18 mètres carrés, on va voir si on se supporte pas.
J'avoue que c'est quand même...
On a fait le pire en premier.
Déjà, les 3 mois qu'on a vécu, enfin, 2 mois et demi qu'on a vécu ensemble à Nancy, on était tout le temps l'un chez l'autre. On a même eu des petites querelles avec nos collègues de l'époque, parce qu'on passait pas beaucoup de temps avec eux. Et moi, pour ma part, je me suis dit, très rapidement, c'est la bonne, et j'avais jamais eu ce sentiment-là avant. Parce que pour moi, elle correspondait tout à fait à ce que je recherchais, savoir une personne super spontanée, qui a tout le temps le sourire, qui déconne tout le temps, qui en même temps sait être sérieuse et qui est aussi très indépendante. Donc voilà, ça collait parfaitement et je me suis dit que c'était la bonne.
Trop bien. Ouais. Sympa. Donc vous emménagez ensemble 18 mètres carrés. Comment ça se passe l'emménagement dans 18 mètres carrés quand on est ensemble depuis 2 ans?
Alors étrangement, c'est ce que je dis souvent à Joël, quand maintenant après 8 ans et qu'on est dans un 90 mètres carrés, je trouve que c'était la meilleure année de notre vie de couple. Mmh. Vraiment, c'était génial. On était nouveau à Paris. On n'avait pas un salaire mirobolant, mais on était fusionnels, on sortait, on faisait des expos, c'était génial, quoi. Et on vivait vraiment l'un avec l'autre et l'un pour l'autre. Du coup, c'était hyper enrichissant parce que, alors qu'après, la vie fait que coup, chacun reprend ses centres d'intérêt.
Et alors, par exemple, c'était des centres d'intérêt que vous aviez en commun, c'était des expos, c'était quoi? Quand tu dis que vous étiez fusionnels, ça signifie quoi concrètement?
Qu'on passait...
On était tout le temps ensemble.
Tout le temps ensemble. On faisait du sport ensemble.
On sortait avec nos amis ensemble.
Même d'ailleurs, il y a des moments où on s'est dit qu'on était trop fusionnels et qu'il fallait qu'on arrête ça.
Mais vous n'aviez pas tellement envie.
Non. Mais ouais, du coup, on allait voir des expos, puis c'était enrichissant, parce que du coup, on se stimulait à se proposer des trucs.
Et alors, qu'est-ce qui a fait que vous êtes devenu un peu moins fusionnel, même si vous vous aimez bien évidemment toujours, mais tu disais que maintenant, quand même, vous aviez aussi vos propres projets indépendants, un peu quand même l'un de l'autre.
Je pense que on se perd un petit peu, entre guillemets, dans une relation qui dure, dans le sens où on s'habitue à un certain confort. Au départ, on fait beaucoup d'efforts, peut-être aussi inconsciemment, enfin surtout inconsciemment, je pense, et de la même manière, inconsciemment, on fait peut-être un petit peu moins d'efforts sur la suite, un petit peu moins de compromis, et c'est ce qui fait que si on s'en rend pas compte très rapidement, ce qui a été notre cas, ça peut, ce sentiment-là peut s'essouffler un peu.
C'est sûr. Donc vous emménagez ensemble. Je crois en plus que vous vous paxez. Je ne sais pas à quel moment c'est arrivé.
C'était à Paris aussi.
Oui, c'était à Paris, mais c'était dans notre deuxième appart. Alors c'était dans le 20e arrondissement.
Vous vous paxez, c'est que globalement quand même vous sentez que ça devient vraiment sérieux.
De toute façon, les périodes qu'on a vécues à Paris se sont vraiment très bien passées, si ce n'est la dernière année où... il est parti, il travaillait en déplacement en Suède et en Norvège et du coup on se voyait moins. Mais moi, mes années parisiennes...
On sent que t'en parles avec un peu de regret.
Ouais. Joël, à chaque fois, me dit que je suis trop nostalgique. Alors, j'ai des raisons pour lesquelles on a quitté, mais c'était super.
Très bien. En fait, maintenant, vous n'êtes plus à Paris. Vous décidez, donc, à un moment donné... Donc, je ne sais pas exactement dans votre chronologie si c'était après le PAX, avant le PAX...
C'était après.
Mais on va dire que le PAX, c'était des prémices, en fait.
D'accord.
Parce qu'on voulait... On était amoureux, bien évidemment, mais on voulait aussi avoir la possibilité de faire le... Comment ça s'appelle? Je ne me rappelle plus. Et quand tu démissionnes et que du coup, ton conjoint peut te suivre.
Ah, le rapprochement de conjoint.
Voilà, rapprochement de conjoint. Ouais. Donc, c'était aussi dans cette optique-là. Donc, on commençait déjà à y penser. On commençait déjà à avoir des projets. C'est pour ça, du coup, qu'on a décidé de déménager.
Et donc, toi, tu as une opportunité à Lyon.
Alors, non, on s'est mis à chercher ensemble. Et c'est Laure qui a trouvé en premier, en fait.
Ouais. Très bien.
Ouais, en fait, on a vécu les attentats. Enfin, moi, personnellement, j'ai très mal vécu les attentats du 13 novembre.
C'est vrai que tu me disais dans ton mail que vous aviez été vraiment pris dans.
Ouais, c'est le déclic qui a fait que.
Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé exactement?
Bah, alors, je pense que ça a été plus difficile pour moi que pour Joël. Et puis, on n'a pas la même vie. D'ailleurs, on a reparlé de tout ça. Après, en fait, on était au Stade de France le soir où ça s'est passé. Moi, j'étais jamais allée voir un match de foot. Et on était comment ça s'appelle, aux estrades, aux tribunes proches des deux personnes qui se sont fait exploser. Et du coup, j'ai entendu ces détonations et Joël me disait non, t'inquiète, ce sont des bombes artisanales. Il me disait il y a des gens qui doivent râler parce qu'ils n'ont pas pu rentrer. Mais quand même, ça a fait vibrer les gradins. Après, du coup, tous les téléphones sonnaient dans le stade, donc on sentait qu'il y avait quelque chose qui se passait. Moi, j'ai eu ma cousine qui m'appelait en pleurant pour savoir ce qui s'était passé. Donc déjà, c'est une petite montée de stress. Ouais. On est parti tôt. Et puis même les vigiles, on essayait de se renseigner. Enfin, ils avaient des versions bizarres. Enfin voilà. Du coup, on est parti dans la foule. Il y avait, on était hyper encadré par la police, donc on sentait qu'il y avait un truc qui allait pas.
Et vous saviez pas exactement ce qui se passait à ce moment-là.
Pas du tout. Non. J'avais juste ma cousine qui m'avait dit qu'il y avait des terroristes qui se faisaient exploser. Donc,
oui, donc comment flipper.
Voilà, c'est ça. Ouais. Donc on était, je sais pas combien dans les foules, à regarder tout le monde de manière suspicieuse. Et après, nous, on habitait rue de la Fontaine au Roi, donc c'est là où il y a eu les.
Oui, donc voilà. Vous étiez sur tous les tableaux, quoi.
Et c'est ma cousine qui m'a dit ne rentre surtout pas chez toi, viens dormir chez vous et chez nous. Et du coup, on est allé chez eux, on a passé la nuit devant BFM TV comme tout le monde. Et du coup, on n'est pas rentré après jusqu'à. Enfin, on est rentré le lendemain à 4h de l'après-midi parce qu'ils ramassaient les corps et c'était un enfer. Puis en plus, moi, j'ai de la famille qui travaille dans le milieu médical, donc elle savait qu'il ne fallait pas qu'on voit qu'il y avait encore des choses qui se passaient. Et en fait, après, c'est plutôt sur le poste et que moi, déjà, j'ai été vraiment traumatisée. Enfin, je l'ai vécu, je ne sais pas, alors que je n'ai rien vu, quoi, finalement.
Non, mais bon, c'était dans tes lieux. Donc ouais, je ne sais pas.
Ouais, exactement.
Laure est très, très empathique aussi. Du coup, elle ressent beaucoup les choses pour les autres.
Et donc, tu l'as assez mal vécu. Et donc, je l'ai mal vécu. À Paris, ça a été
Et puis, en fait, après, dans le métro, je regardais tout le monde de manière suspicieuse. Et c'est pas des valeurs que je défends. Et coup, je me disais que je devenais raciste, quoi, clairement. Donc, puis j'avais trop de stress. Dès qu'il y avait une détonation, je paniquais. Et je me suis dit que, c'était pas un environnement qu'il nous fallait. Et pour construire une famille aussi, du coup. Ouais.
Et j'imagine que c'était assez dur comme période, parce que si toi, t'étais pas bien comme ça, anxieuse, stressée, un peu paranoïaque, pas vraiment, parce que vous aviez quand même vécu quelque chose, mais en tout cas que t'étais vraiment nerveuse, au niveau du couple, ça a impacté un peu votre relation, ou au contraire, t'as été peut-être un soutien aussi, Joël, comme toi, t'avais l'air de prendre avec plus de recul.
Le problème, c'est que j'étais aussi en déplacement, en fait, toute la semaine, donc et très fatigué le week-end, donc je pense que j'ai pas été le support nécessaire. Après, on a pris la décision ensemble de déménager, je pense que c'était une bonne décision. Mais non, le support était pas optimal, je dirais.
Pas suffisant. Ouais. Puis culturellement, on a parlé de cet événement et en fait, du coup, Joël est métisse tchadien et français. Et en fait, il m'expliquait que des drames, ils sont habitués en Afrique à vivre des choses horribles très tôt. Et du coup, ils n'ont pas le même
rapport
à ça. Exactement. Et du coup, alors si quand même il a été un soutien parce qu'il était là et que voilà, mais c'est vrai que c'est pas la personne avec qui j'en ai le plus parlé. Mais après, il m'a toujours suivi dans ma volonté de partir vers d'autres horizons.
Alors justement, je voulais vous parler un petit peu de cette différence culturelle. Tu l'évoquais aussi dans le mail. Est-ce que vous avez vécu parfois des moments, bah, justement, tu me parlais de surprise, des moments où vous sentiez que vous n'étiez pas forcément exactement sur la même longueur d'onde et, je ne sais pas, est-ce que vous auriez des exemples ou des cas qui vous viennent à l'esprit?
Je pense à la naissance de Léon, peut-être. Et au fait qu'à la naissance de Léon, alors dans ma famille, et dans les familles africaines en général, là, la mère vient passer du temps, enfin du coup la grand-mère de Léon, oui. Passer du temps pour aider au départ, ouais. Du coup faire le ménage, être présente,
oui, elle est assez
etc.
présente.
Elle est assez présente, voilà. Et donc du coup, à partir du moment où elle
Marie
a su
Libanais,
que...
Marie les familles présentes, je vois aussi.
Ouais,
c'est sympa.
Mais... C'est peut-être un peu envahissant du coup. Non, donc, donc elle a... À partir du moment où elle a su qu'on était à l'hôpital, et puis du coup, elle m'a appelé pour venir passer 2 semaines chez moi. Donc, ce qui était déjà beaucoup pour moi, et je pense aussi beaucoup pour la maman. Donc, ouais. On a dû trouver un compromis pour qu'elle vienne passer du temps, mais pas autant de temps que ça.
Ouais. C'est rigolo. Ouais, puis en fait c'est vraiment pas la même manière. Moi j'ai une
mes parents sont ensemble. Qui est pas très proche. Ou...
Alors si je suis très proche de ma mère, on parle beaucoup, on communique beaucoup, mais on va pas passer du temps physiquement ensemble. Puis ma mère elle dit toujours qu'elle est contente de nous voir évoluer. Elle remercie à chaque fois Joël de avoir participé au fait qu'elle ne met plus dans ses pattes en rigolant. Mais moi, j'ai une mère qui est hyper féministe, qui nous a toujours poussé à être indépendants, autonomes. Et dans la culture de Joël, c'est un peu l'inverse. C'est déjà, la place de la femme n'est pas du tout celle que je défends. Donc c'est plutôt la femme, une bonne femme, c'est quelqu'un qui fait à manger, qui fait le ménage, voilà. Alors que moi, clairement,
c'est pas ton truc.
Ouais, c'est ça. Et du coup, je tiens beaucoup à sa maman, donc j'essaye de ne pas la brusquer, mais d'un autre côté, des fois, je m'oublie un peu. Et je savais que la naissance de Léon serait un événement dans ma vie, je ne savais pas comment j'allais le vivre, et je ne voulais surtout pas être dans une position où je me forcerais à être quelqu'un que je ne suis pas, tout en vivant quelque chose de complètement inédit pour moi.
Mais ça doit pas être évident aussi pour toi, Joël, quand même, parce que, t'es quand même un peu, désolé, mais t'es un peu entre les deux, je trouve.
Oui, je suis...
Et comment t'as réussi à aborder ça, parce que, à la fois, j'imagine que tu soutiens ton épouse, ta conjointe, t'as envie de la valoriser, t'as envie de suivre en plus ce qui est important pour elle, mais en même temps, il y a ta maman. Est-ce que vous avez été obligé d'avoir des conversations à ce sujet, peut-être avec ta maman aussi?
Alors, peut-être déjà de base, j'ai une double culture. Mon père est français, européen, donc j'ai les deux. Et de base, ce que je recherchais, c'était une personne indépendante, en fait. Je ne cherchais pas
tu
à reproduire.
Quand même que tu voulais pas reproduire le modèle
c'est
familial.
Ça. Et c'est ce qui fait que on fait des compromis. Et qu'on arrive à s'adapter au fur et à mesure. Bien sûr qu'il y a eu des difficultés. Ouais. Laure en a parlé dans son mail. Ouais. On a fait une thérapie notamment, parce qu'à un moment, on s'est un petit peu oubliés tous les deux, pour justement se raccrocher, essayer de mieux communiquer ensemble et comprendre ce qu'on faisait mal ou ce qu'on n'entendait pas de la part de l'autre.
On va en parler parce que je trouve ça hyper intéressant de la thérapie après, mais pardon, excuse-moi, je t'ai interrompu.
Non, mais j'avais...
Non, mais du coup, en fait, donc vous avez fait ça et c'est ça aussi qui t'a aidé, toi, à savoir te positionner quand même.
En fait, je pense que ce qui est difficile pour Joël, c'est que du coup, il a du mal à... Enfin, par exemple, moi, je vais être beaucoup plus frontale avec mon père. Ouais. Ma mère, ça se voit bien, donc j'ai pas à être frontale. Mais, et du coup, en fait, dans la culture africaine, ils sont beaucoup moins frontales, enfin, le fils avec la maman. Et du coup, je pense que ce qui est difficile, puis la maman de Joël est malade, du coup, je pense qu'il a pas envie de la blesser, il a pas envie de me blesser, mais il est entre les deux à pas savoir. Donc, je pense que c'était compliqué pour lui de se positionner là-dessus et ça a généré des frustrations chez tout le monde, clairement, chez sa mère, chez moi et chez toi.
C'est ça, quoi.
Ouais. Donc, c'est ça qui a été difficile la dernière année.
Et là, depuis que vous êtes arrivé à Lyon, donc nouveau boulot, nouvelle vie. En plus, maintenant, vous avez donc un enfant, on va en parler. Vous êtes arrivé à Lyon et donc avec ce bagage quand même du départ de Paris suite aux attentats, etc. Et puis toi qui étais beaucoup en déplacement, Joël.
Tu me disais dans ton mail, Laure, que c'était pas évident cette arrivée à Lyon, surtout que t'étais tombée enceinte.
Ouais.
Donc ça rejoint peut-être un peu aussi cette question et puis la question de la thérapie. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce que ce changement en fait a été mal vécu? Et dans votre couple, qu'est-ce que ça a changé?
J'y vais.
Ouais, vas-y.
Alors, du coup, on a eu très rapidement du travail, Joël et moi. Donc
ah
moi.
Ouais. Merci.
Joël était donc il travaillait à Grenoble, donc c'est assez loin de Lyon.
Ouais, ça fait du bout, ça ouais. fait une petite ouais. trotte quand
c'est
même.
C'est ça. Et moi, je suis consultante en informatique et j'étais dans une mission avec des clients qui n'étaient pas sympas avec moi. Et Joël s'est mis à fond dans le travail. Moi, j'avais une charge de travail qui était beaucoup moins importante. Je connaissais moins de gens à Lyon qu'à Paris. Et moi, j'aime beaucoup les relations humaines. Du coup, j'avais besoin d'être entourée, j'avais besoin de débriefer mes journées.
Je n'étais pas là parce qu'il
voilà,
bossait.
C'est
voilà,
ça.
C'est ça.
Et ouais, en plus, moi, j'aime bien exorciser. Je parle pendant des heures pour...
C'est très bien pour le podcast.
Ouais, mais je pense que les auditeurs... faut couper, faut partir, madame. Et du coup, c'était un peu frustrant parce que moi, je le vivais mal. J'ai eu des attaques sur mon physique ou des choses comme ça.
Ouais.
Joël était, pareil, hyper impliqué dans son travail. Lui, il avait une charge de travail monstre. Enfin, d'ailleurs, il l'a toujours eu. Et du coup, c'est pareil. Moi, le soir, je l'attendais. J'avais personne d'autre à qui parler, si ce n'est ma sœur qui, la pauvre...
On avait marre.
Ouais.
On peut le dire.
Ouais. Et du coup, ouais, c'était assez frustrant. Donc, difficile pour moi. En plus, au moment où les Lyonnais... Parce que les Lyonnais mettent un certain temps...
pareil, ouais. Ouais. Je ne sais pas si... On n'a pas de préjugés,
mais bon. Moi, c'est mon avis et c'est partagé par d'autres personnes. Mais du coup, le temps de...
Vous avez mis un peu de temps à vous faire votre trou, votre cercle d'amis.
Et le moment où les gens se sont ouverts, moi, je suis tombée enceinte, donc j'étais fatiguée, je ne pouvais pas, voilà. Donc, c'est vrai que la première année était compliquée pour moi, alors que Joël, c'était plus simple.
Ouais, mais parce que je suis assez binaire dans le sens où quand j'ai un objectif, je vais à fond dessus. Et du coup, à ce moment-là, je pensais beaucoup au travail, à notre future vie de famille, etc. Et du coup, je ne me suis pas forcément rendu compte de ce qui se passe.
Ouais.
Exactement. Mais c'est vrai qu'on a laissé quand même... On ne s'en rendait pas compte, je pense, à l'époque où on a quitté Paris, mais on a laissé beaucoup de choses derrière nous, beaucoup de gens. On a été quasiment les premiers à partir, à fonder une famille, à avoir un enfant. Donc, je pense qu'on ne s'en est pas rendu compte. Et du coup, ça a été aussi un choc pour tous les deux.
Ouais. Et donc, le fait que tu ne sois pas très bien, en plus enceinte, donc on est fatigué, malade. Voilà.
C'est ça.
Donc, tu me disais dans ton mail que ça avait été un peu dur pour le couple. Et donc, c'est à ce moment-là, c'est ça, je crois, que vous avez décidé de faire la thérapie.
Alors non, on l'a fait après. J'ai accouché. Ouais.
On a dû la faire peut-être.
Un mois après. En fait, c'est au moment où, quand Joël a repris le travail après son congé paternité, et moi, je passais la journée. Alors, j'ai très bien vécu mon congé parental. En revanche, le soir, j'attendais de Joël qu'il soit là tôt pour prendre le relais, puis prendre du temps pour moi, puis avoir une vie de couple. Et Joël était toujours extrêmement investi dans son travail. Et du coup, il ne se rendait pas compte, mais il rentrait à 20h. Maintenant, je lui fais le coup de temps en temps pour qu'il se rende compte. Mais du coup, voilà.
Ouais, t'étais très seule.
Ouais, c'est ça, exactement. C'est tout à fait ça. Et moi, j'en pouvais plus. J'avais envie d'autre chose. J'avais envie de revivre les moments qu'on avait vécu de complicité avec Joël, que je ne retrouvais pas du tout. Puis j'avais la position de mère plutôt que femme. Et puis moi, j'aime bien avoir autre chose.
Non, et puis à l'inverse, ce qui n'est pas facile aussi, parce que pour Joël quand même le dire, quand tu bosses beaucoup, souvent, moi je parle quand même, j'ai plein d'amis évidemment qui ont des enfants, qui te disent, j'ai beaucoup travaillé toute la journée, j'ai pas non plus envie à ce moment-là, tu vois, de mettre la main à la pâte pour faire la cuisine ou quoi que ce soit. Et donc cet équilibre, il est très très difficile à trouver. Et donc c'est à ce moment-là que ça a un peu clashé, on va dire, c'est ça, entre vous.
Oui, ça a été à un moment, le rapport, ça a été déséquilibré en fait à un moment. Et c'est ce qui a fait que Laure s'est sentie délaissée à juste titre et qu'il fallait du coup faire quelque chose pour... pour enrayer cette ouais. spirale un peu négative. Quoi. Ouais.
Et c'est intéressant parce que du coup, donc, vous avez fini par faire cette thérapie. Ça a été, comment est-ce que vous vous êtes dit on va faire une thérapie? Parce que c'est quand même, enfin, je ne sais pas si c'est rare, hein, je ne connais pas les chiffres.
Mais, si, je pense que c'est rare.
C'est pas si fréquent ouais. que ça, ouais. en tout cas.
Puis on est jeune.
Et c'est super mais... parce que bah, voilà, vous êtes jeune et tout. Souvent, quand ouais. ça arrive, c'est des personnes, je pense, qui ont vécu des années de mariage, etc. Donc, qu'est-ce qui a fait que vous avez eu ce déclic de vous dire non, mais là, il faut qu'on se fasse aider, on ne va pas gérer ce problème seul, c'est trop compliqué.
Alors c'est Laure qui a suggéré, c'est Laure qui a souvent les bonnes idées. Alors au départ j'étais pas forcément pour,
ouais,
car
pas
dans ma culture non plus. Ouais. Enfin c'est quand même assez inédit,
c'est
donc,
un peu intime, donc ouais, dis, bon,
complètement.
Clairement. Donc au début j'étais pas forcément pour. Je pense que ça a mis un mois et demi avant que je me dise ouais si c'est c'est peut-être la bonne chose parce que ça allait toujours pas.
Oui, vous arriviez pas aussi peut-être j'imagine non. à dialoguer et vous avez essayé j'imagine de parler tous les deux.
Oui,
de
bien
avant,
sûr.
Avant,
ouais.
Avant,
ouais,
bah,
bien
en
sûr.
Fait, Joël m'avait même dit, j'en avais parlé je crois avant l'accouchement. Et Joël m'avait dit non, mais on va trouver des solutions. Et si jamais on ne trouve pas des solutions, ok, on fera une
D'accord.
thérapie.
Ouais.
Et du coup, on a fait la thérapie après. Après, ça vient de moi parce que moi, j'ai une mère ultra communicante qui donne beaucoup d'importance aux mots. Et voilà, elle pense que ça peut soigner pas mal de choses. Du coup, qui m'avait un peu poussée là-dedans. J'avais vu, à l'époque, comme j'étais en congé maternité, je regardais Je t'aime, etc. Sur,
et ben voilà, ça sert à quelque chose.
Ouais. Et il y avait une personne qui faisait une intervention sur la thérapie et qui disait que le couple, en fait, à chaque fois, dans sa vie, vivait... un tas de transitions et que dans l'idéal d'un monde il faudrait qu'à chaque transition on ait une nouvelle thérapie
et bah là c'est vrai que vous départ à Lyon plus enfant ça fait beaucoup de
c'est
transitions
ça. Exactement. Ouais, il fallait qu'on se recale, qu'on se retrouve bien. Et puis après aussi le problème c'est que Joël en fait il est le contraire de moi, c'est à dire que quand moi je vais pas bien, enfin de toute façon je parle toujours et Joël si ça va pas il va se remettre dans une carapace,
j'intériorise beaucoup
et là il faisait
il parlait plus
il parlait plus, il faisait beaucoup de PlayStation, il se couchait tard, enfin c'était compliqué
Et donc vous faites cette thérapie, est-ce que vous pourriez juste m'expliquer en deux mots sans rentrer dans le détail, évidemment, pour ne pas vous gêner, mais comment ça se passe, en fait, une thérapie comme ça? Qu'est-ce qui se passe concrètement? Parce que je pense qu'il y a beaucoup d'auditeurs, peut-être, qui pourraient en bénéficier aussi et qui se posent la question. Ça fait un peu peur. Du coup, là, la bonne nouvelle, c'est que visiblement, ça peut marcher très, très bien.
Ouais.
Mais concrètement, comment ça se passe, ce genre de thérapie?
Finalement, très bien, en fait. Moi, j'avais beaucoup d'appréhension et je pense que ça doit aussi dépendre de la personne qu'on voit. Nous, la personne qu'on voit était vraiment... très à l'écoute et elle a su nous mettre à l'aise dès le départ. Et ce qui fait peur, surtout, je pense, c'est pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude, c'est le jugement. Et dès la première minute, on voit que la personne n'est pas là pour te juger et elle est là pour t'aider à trouver des solutions. Alors, elle ne va pas trouver des solutions miracles, mais des choses simples que tu faisais avant, enfin qu'on faisait avant, qui n'existent plus et qui permettent de renouer du lien, du coup. Donc très agréablement surpris. Je pense que si c'était à refaire, je le referais parce que je pense que si on l'avait pas fait, il y aurait peut-être pas eu la même issue pour nous. Et c'était une très bonne idée.
Et alors concrètement, est-ce que vous auriez des petits exemples de petits trucs justement, de petites astuces ou de choses que vous faisiez avant que vous ne faites plus, ou à l'inverse que vous avez mis en place suite à cette thérapie pour que le couple se porte mieux?
Alors elle a eu une image très importante, elle nous a parlé de l'espace intime qui est dédié à soi et l'espace du couple amoureux. Et du coup elle nous a montré en fait que depuis... un an et demi, on prenait tous les deux plus de temps pour nous, pour faire des choses en dehors du couple amoureux. Et qu'en fait, c'est cette distance-là qui du coup a entraîné tous ces problèmes-là.
Oui, donc vous n'aviez pas de temps.
Voilà.
Ouais, c'était ça. C'était le couple familial, en fait.
Oui, voilà.
C'est
ça.
Que... ouais, parce qu'en fait, elle expliquait que... sur certains trucs, on avait l'impression de faire des choses ensemble, alors qu'il y avait notre fils au milieu, même si on adore notre fils, mais que du coup, ça ne laissait pas de place à la séduction, à la reconquête, des choses comme ça. Donc ça, c'est peut-être l'enseignement...
Mais qui, je pense, que... est très important pour beaucoup de parents.
Ouais. Ah ouais, ouais, c'est
en fait,
clair.
Bah, tu parlais du rôle de femme versus mère, et pareil, papa versus mari. Bon, c'est pas évident de trouver, en fait, sa place et de faire cohabiter tous ces rôles qui existent ensemble, quoi.
Ouais. Et moi, l'enseignement qui m'a le plus touchée, c'était l'attente fusionnelle.
Ouais. L'attente fusionnelle. Ouais. Alors, explique-nous ça.
En fait, c'est quand on dit rien à la personne avec qui on vit. Par exemple, je sais pas, c'est une date exceptionnelle, la Saint-Valentin.
Voilà. Et t'aimerais qu'il fasse quelque chose.
Ouais, mais on lui dit pas. Et on est hyper déçu parce qu'il l'a pas fait.
Est-ce qu'elle t'a dit que c'est féminin? Ou pas.
Non, mais non. Je pense que c'est un peu féminin.
Parce que je crois que ça l'est un peu.
Et du coup, ça, effectivement, moi, sur plein de choses, je suis là, mais il va faire ça. Et en fait, non, je suis hyper déçue alors qu'il ne le sait pas. Ouais.
Ouais. Non, mais peut-être aussi sans rentrer dans des choses très romantiques. Ça peut être des choses toutes simples. On attend un type de comportement où il y a quelque chose qui nous a déplu et on n'arrive pas à le... Enfin, on ne le formule pas. Et du coup, elle nous a appris... essayer de le formuler le plus calmement possible pour que la personne en face arrive à l'intégrer.
Et donc maintenant, en fait, quand tu as une attente, tu la formules.
Ah, pas toujours, des fois j'ai envie de bouder, donc non. Mais oui, non, j'essaye de communiquer plus fréquemment quand j'ai une frustration plutôt que de ruminer pendant 5 jours. Et puis lui, il comprend pas forcément. Surtout que comme il dit... Je suis hyper empathique, donc rien peut me bouleverser.
Bon, en tout cas, vous avez l'air d'en être très, très bien sortis. Ouais. Et j'ai l'impression que tout se passe très bien. Et donc, ce petit Léon, en plus, est arrivé dans vos vies depuis maintenant un an et demi. Un an et demi. Écoutez, en tout cas, je suis sûre qu'il va avoir des parents qui non seulement vont très, très bien s'occuper de lui, mais qui, en plus, maintenant, vont pouvoir... faire non plus de l'attente fusionnelle, mais au contraire du dialogue. Ça va être parfait. Des petites questions que j'aime bien poser, c'est depuis que vous êtes ensemble maintenant, ça fait à peu près 8 ans, qu'est-ce que vous diriez que l'autre a changé dans votre vie? Qu'est-ce que l'autre vous a fait prendre conscience ou qu'est-ce qui a fait que vous avez évolué au contact de l'autre? Est-ce qu'il y a un trait de caractère, une façon de penser que l'autre vous a apporté, en fait, tout simplement?
Moi, de mon côté, alors je ne l'ai pas acquis, mais j'admire la spontanéité de Laure. C'est une personne très, très directe qui arrive à... Et aussi son empathie, comme on en parlait. Je pense qu'elle m'a fait grandir, en fait. Comme on discutait tout à l'heure dans la culture, ma mère faisait quand même beaucoup de choses pour moi. Et du coup, tout de suite, avec Laure, je pense qu'on arrive à trouver un équilibre et à bien se répartir... les tâches à la maison ou alors s'occuper de notre enfant. Je dirais que de manière générale, elle m'a fait grandir. Et puis la deuxième chose, c'est que elle est très très écolo, Laure, aussi. Et du coup, elle arrive, alors c'est pas comme elle le voudrait, mais elle arrive à me faire prendre conscience de certaines choses et du coup à améliorer un peu notre empreinte carbone. Alors, c'est quelque chose que je...
Très bien, très bien.
Je connaissais pas du tout avant. Ouais.
Et toi, Laurent, quoi est-ce que tu as changé au contact de Joël?
Et ben moi, justement, parce que je suis peut-être trop dans l'émotionnel sur certaines choses, Joël m'a appris à me canaliser sur certaines choses, d'être plus cadré, notamment dans la vie professionnelle et la vie émotionnelle d'ailleurs.
Prendre les choses un peu moins à cœur.
Ouais, exactement. Donc c'est vraiment ça. Et puis après, en fait, l'avantage, c'est que du coup, on a des caractères quand même assez opposés.
Ouais.
Et du coup, ça a créé un équilibre. Alors des fois, ça a créé des frictions parce qu'on attend que la personne soit un peu réagisse comme nous. Mais finalement, en fait, le fait que... il soit calme, on voit en soirée, c'est drôle parce que tout le monde nous dit « Oh là là, il n'y a que Joël pour supporter là !» Donc je pense que ça fait c'est un bon compromis d'avoir nos deux personnalités différentes.
Super.
Ouais.
Bon, vous me parlez de plein de choses super positives, mais quand même, s'il y avait un petit défaut, un gros défaut, qui vous rend fou, qui vous rend hystérique, qu'est-ce que c'est? Joël, vas-y. c'est le moment de balancer.
Bah alors, elle part au quart de tour, en fait, très rapidement. La dernière fois, elle est partie au quart de tour, par exemple, parce que je lui avais demandé de baisser le son de, dans la voiture, de la
oui,
musique,
donc
par exemple.
Non. C'est hyper important, quoi.
Ouais. Non, mais c'est parce que derrière, il y a quand même plein de choses. C'est pas
oui, oui, mais du coup, tu... enfin, quand ça explose, ouais, en fait. C'est ça. Enfin, c'est ça le message derrière, ouais.
Donc ouais, c'est un peu hurlement, ouais, compagnie, quoi.
Ouais, on le sent pas venir, j'ai du mal et d'un coup, ça arrive, en fait.
Et là, comment tu réagis dans ce genre de cas, Joël?
Ah bah, moi, je parais calme comme ça, mais je suis aussi très impulsif, je bouillonne un peu, donc là, ça part en clash, ouais.
D'accord, très bien, on va parler des disputes juste après. Et toi, s'il y avait un défaut mignon, mais bon...
Non, moi, c'est la PlayStation. Si je pouvais, je la débrancherais
par la fenêtre.
Je la jetterais par la fenêtre. Enfin, ouais, Joël est un grand passionné de foot. Et du coup, c'est du FIFA. Pour tous ceux qui aiment le FIFA, c'est FIFA Manager, FIFA Compagnon, FIFA... FIFA 2018, FIFA 2019.
Petit moment pub pour FIFA, là. Très bien.
C'est, ouais, franchement, non, c'est insupportable.
D'accord. Je comprends. Dispute, du coup. Dispute, donc ça part un peu de temps en temps.
Oui.
Est-ce que maintenant vous arrivez, parce qu'en plus, quand on part dans tous les sens, que toi, tu te mets un petit peu à hurler dans tous les sens, Laure, et que toi aussi, tu bouillonnes, Joël, est-ce que vous avez réussi quand même maintenant à apprendre à désamorcer ces disputes? Est-ce que vous avez mis en place des petits trucs, peut-être justement avec la thérapie, pour que, voilà, que vous passiez à autre chose, que vous en appreniez des enseignements aussi?
Je pense qu'on le faisait très bien avant. Au début de notre relation, on arrivait vraiment à se désamorcer. C'est ce passage-là qui a fait qu'on n'arrivait plus du tout à le faire.
Ouais.
Et maintenant, en fait, je pense que la clé, c'est, dans notre couple, c'est de dire... avant ce qui nous a déplu, pour pas justement ruminer pendant 4-5 jours ce qui s'est mal passé. Après, il y a un petit truc qui vient se mettre en plus,
ouais,
etc., etc.
C'est qu'en fait, l'explosion, elle vient après plein de
voilà, ouais, c'est, ouais, ça. C'est ça. C'est souvent une accumulation plutôt qu'un fait en particulier. Ouais. Alors, dans nos caractères, je pense que ça existera toujours dans notre couple. Je pense qu'on est aussi un petit peu comme ça. Et je pense qu'on s'en nourrit aussi un petit peu. Il faut pas que ce soit trop exagéré.
Ouais, moi je le vis pas bien quand même. Hein? Moi je le vis pas bien. En fait, je pense qu'après la thérapie, on a eu une période où vraiment c'était super parce qu'on arrivait vite à temporiser, à se comprendre. Et après il y a les événements de la vie qui fait que quand on a du boulot, du stress, notre fils est allé chercher, qui est malade ou quoi que ce soit, et ben rapidement on se laisse un peu manger par ce stress-là et on a du mal à s'arrêter et se dire oula, mais là c'est pas bien ce qu'on fait. Donc là récemment c'est un peu le cas, c'est qu'on a du mal à reprendre du dessus. Joël change de travail, moi j'ai une charge de travail impressionnante, et du coup effectivement on a ces moments là qui sont difficiles. Par contre, quand on est en vacances par exemple, ça se passe trop bien.
C'est ça.
Parce que même si on fait un truc qui nous déplaît, on va même en rigoler, quoi. Parce que,
Ouais, c'est le stress, en fait.
Ouais.
Et justement, vous arrivez maintenant à... Ou vous avez mis en place peut-être à des moments vraiment pour vous, pour ce couple, donc, et pas uniquement pour donc la vie de famille. Vous avez instauré un petit système où vous trouvez que, justement, c'est peut-être pas encore assez, pas suffisant?
Alors, c'est pas encore suffisant, mais depuis un an, je fais du télétravail, par exemple. Donc, le jeudi, donc je suis sur Lyon, en fait, et plus sur Grenoble. Donc du coup, on prend de temps en temps du temps pour aller manger ensemble. On essaye aussi pendant la semaine de passer plus de temps ensemble. Moi, j'essaye de proposer un peu plus d'activités qui sortent de notre routine et qu'on faisait avant, type expo, balade, etc. Et voilà. Mais c'est pas encore suffisant. Maintenant, le cap qu'on doit passer, c'est babysitter, on doit retourner au cinéma,
le soir,
etc. Ouais.
On n'a pas encore fait le soir beaucoup de choses sans notre fils, même si, par exemple, on a fêté nos 30 ans, ma mère est venue pour garder notre fils et on a pu profiter de ça. Mais effectivement, on ne fait pas assez de choses le soir, dans un cadre amoureux. Ça, il faut que
ça va venir.
On change.
Ouais.
Ça va venir, je ne suis pas inquiète. Génial. Écoutez, ma dernière question que j'aime bien poser, c'est si vous reveniez 20 ans en arrière et qu'avec l'expérience que vous avez maintenant, avec tout ce que vous avez vécu, vous pouviez donner un message, une maxime, des mots de sagesse, un conseil au petit Joël ou à la petite Laure pour lui dire, en fait, ne t'inquiète pas, le secret du bonheur à deux, c'est ça. Qu'est-ce que vous lui diriez?
Moi, je me dirais, fais-toi confiance, tu vas y arriver. C'est tout.
toujours en confiance. Il a bien raison. Non, mais c'est vrai.
Ouais, moi, je sais pas ce que je me dirais. Ouais, je pense que j'essaierai vraiment de tempérer mes émotions, même si il y a des moments où je trouve que c'est un atout, d'autres moments où il y a des choses qui me blessent trop. Donc ouais, peut-être que j'essaierai de m'apprendre à pas être blessée sur certaines choses qui sont
Choses avec un peu plus de recul.
Qui sont pas forcément faites pour être blessantes de quelqu'un.
Bien sûr.
La personne avec qui on vit.
Génial. Écoutez, merci beaucoup pour tous ces partages.
Merci.
Je vous souhaite le meilleur pour la suite. Je suis sûre que tout va très bien se passer. Vous avez l'air d'être un couple, en tout cas, très heureux et très amoureux. Et puis, je vous dis à bientôt.
Merci.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Hello à nouveau et quelques dernières petites choses avant de vous quitter. Vous pouvez retrouver le contact de nos invités sur le site de Gemio, www.gemio.com, rubrique podcast, ou découvrir même l'envers du décor du podcast en vidéo sur Instagram via notre compte qui est tout simplement @gemio. Si vous souhaitez nous suggérer de nouveaux invités, peut-être aussi nous proposer votre histoire d'amour, alors contactez-nous en message direct via Instagram, toujours au pseudonyme Gemio. On attend vos nombreuses candidatures. Enfin, si le podcast vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit mot doux, une note 5 étoiles sur l'application iTunes. Et puis surtout, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à vos amis, vos amoureux, vos proches. Nos invités méritent vraiment qu'on diffuse leurs témoignages autour de nous. Surtout, un grand, grand merci de nous avoir suivis jusqu'ici. On espère que l'épisode vous a plu et on vous dit à très bientôt pour un nouvel épisode de Chalalove.